Notre invité ce matin dans le 8:30, Mgr Xavier Mal, bonjour.
Bonjour.
Évêque du diocèse de Gap-Embrun, c'est le nouveau nom depuis juillet dernier, au sortir de la conférence des évêques de France à Lourdes, après les révélations du cardinal Jean-Pierre Ricard, qui a reconnu une agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans il y a 35 ans. On sait, ça a impacté directement les Alpes du Sud, puisque le cardinal avait choisi de passer sa retraite dans les Alpes d'Haute-Provence. Il a quitté le presbytère de Peruy, où un logement avait été mis à disposition par le diocèse. Après cette conférence, après ces aveux, comment en ressortez-vous, et dans votre fonction et dans votre foi?
Alors, j'en ressors meurtri, je crois que c'est le terme pour moi, mais aussi toujours déterminé. C'est un terme que j'avais pris en 2018 dans une lettre pastorale sur ce drame des abus sur mineurs, qui était intitulé « Pour une église déterminée ». Et je crois que, paradoxalement, cette annonce du cardinal Ricard montre aussi une détermination. Donc je suis à la fois meurtri par cette annonce du cardinal Ricard et en même temps une annonce, alors je ne connais pas toutes les conditions, donc voilà, à première vue, il y a quelque chose de juste dans cette annonce. C'est un peu comme quand vous allez dans un confessionnal, vous commencez par avouer vos péchés et demander pardon, et c'est ce qu'il a fait à tous ses frères évêques, et en particulier, avant tout, à la personne victime. Donc à la fois je suis meurtri, à la fois je me dis voilà, on avance. Voilà.
Le président de la conférence, Éric de Moulin-Beaufort, déclarait « Jusqu'en 2016, personne ne prenait vraiment au sérieux les personnes victimes. Tout le monde pensait « Ce sont des enfants, ils vont oublier la justice, la police. » Tout le monde était dans cet état d'esprit-là. C'est terrible d'entendre cela aujourd'hui et de le constater.
Oui, et on voit le progrès qui a eu lieu dans la prise en compte de la parole des personnes victimes. Aujourd'hui, elles sont prises en compte. Elles sont écoutées, elles sont accompagnées par toutes les institutions, on peut dire, et de mieux en mieux. Donc, je crois qu'il y a un vrai progrès de notre société de ce côté-là. Alors, ce qu'il faut continuer à faire des progrès, c'est dans tout l'aspect prévention, pour éviter qu'il y ait d'autres. Voilà, la nature humaine étant ce qu'elle est, on ne se fait pas non plus d'illusions, mais éviter au maximum la survenue de ces drames. Mmh. Ouais.
Comment elle se développe, cette prévention, au sein du diocèse?
Alors, au sein du diocèse, il y a un aspect de formation qui est très important. On a fait plusieurs journées de formation depuis 5 ans. On a fait l'an dernier une journée qui était, j'ai appelé ça la journée de rattrapage, pour tous les prêtres qui sont arrivés dans le diocèse depuis, en fait, qui n'avaient pas suivi ou qui étaient malades au moment des formations, qui n'avaient pas suivi. On a fait un peu une journée de résumé toute la formation que chacun ait. On prépare d'autres formations pour le futur, mais ça prend un peu de temps à organiser, une formation plus globale sur l'accompagnement spirituel, la confession, l'accompagnement spirituel, parce que ce sont des lieux qui sont tellement importants pour le peuple de Dieu, mais qui sont aussi des lieux potentiels d'abus. Et donc, il faut vraiment former les prêtres là-dessus. Et donc, la communication de la cellule d'écoute, du travail que nous faisons, je crois que, mais là vous faites votre travail comme journaliste, et c'est un beau travail aussi de prévention, parce que quand on en parle, ça permet aux personnes de se rendre compte, ben non, ce qui se fait là, c'est pas normal. Vous voyez, ou ce que j'ai subi, c'est pas bien, et donc il faut que je réagisse. Donc je crois qu'il y a aussi, dans la prévention, il y a aussi l'information qui fait partie de cette prévention.
Et vous travaillez main dans la main avec le parquet de Gap concernant d'éventuels signalements. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu d'autres signalements depuis la mise en place de ces cellules?
Alors, j'avais annoncé l'an dernier, au retour de Lourdes, où nous avions pris des grandes mesures aussi, j'avais fait un bilan, une mise à jour un peu des choses. Et donc, après Lourdes, j'avais eu, je crois, deux nouvelles informations, de nouveaux signalements, qui n'étaient pas des signalements de faits dans le diocèse, mais hors diocèse. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'hésite pas à aller voir le procureur de la République pour lui dire, voilà, un peu telle ou telle chose, qu'est-ce que vous me conseillez là-dessus? Oui, c'était très bénéfique parce que ça encadre les choses, ça m'oblige, moi, à un certain nombre de choses. Ça oblige aussi le procureur à me rendre compte de quand cela concerne des prêtres ou des laïcs de l'Église. Voilà, donc on était un des premiers diocèses avec, en fait, on a fait ça dans le cadre de la cour d'appel de Grenoble, avec Valence et Grenoble, on était un des premiers groupes d'évêques à avoir fait ça, et l'an dernier, nous avons décidé, tous les évêques de France, que ça se multiplierait partout en France. Et c'est le cas actuellement, je crois que tous les diocèses ont signé un protocole avec le procureur.
Alors, vous le dites, hein, il y a eu deux signalements qui ont été faits l'an dernier. Depuis, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ces signalements, est-ce qu'il y a eu des suites qui ont été données?
Alors, pas à ma connaissance, autant que je peux en connaître, non, pas de nouveaux signalements et pas de nouvelles de suite par rapport à tout ça.
Le président de la conférence, Éric de Moulin-Beaufort, a déclaré que la confiance sera longue, difficile à rétablir. Est-ce que vous, Mgr Xavier Malle, vous sentez cette confiance brisée aujourd'hui, que ce soit dans les chiffres, avec le nombre de fidèles dans les Hautes-Alpes, ou dans les paroles aussi?
Il y a les deux sentiments, je crois, de la part du peuple de Dieu. Il y a à la fois une colère, et je la partage, puisque je suis aussi partie du peuple de Dieu. Donc il y a à la fois la colère, mais il y a aussi, je crois aussi, de la part de beaucoup, une reconnaissance du fait que nous prenons au sérieux ces choses-là. Alors c'est vrai que l'événement de cette année, en particulier l'affaire de Mgr Michel Santier, a été ressenti comme si comme une trahison, en fait, comme si nos engagements de l'an dernier n'avaient pas été tenus. Moi, je vois que c'est surtout, on a découvert un angle mort dans la procédure de traitement des affaires, et que, on s'y met sérieusement. Là, on a décidé à Rome plusieurs choses, à Lourdes plusieurs choses. D'abord d'aller à Rome pour améliorer la fluidité des choses, parce qu'avec l'affaire Michel Santier, il y a eu du retard dans le traitement des choses, il y a eu du retard dans la communication, donc il y a des problèmes de fluidification entre Rome, parce que un évêque, ça dépend pas d'un autre évêque, ça dépend de Rome directement, donc c'est plus compliqué. Et puis, deuxième chose, la mission, elle revient aux archevêques de s'occuper des affaires concernant les évêques, mais les archevêques, il ne faut pas qu'ils soient seuls non plus, parce qu'on n'apprend pas au séminaire à être procureur, à être juge, à faire tous les métiers. Et donc, on a décidé un comité de suivi d'un décret du pape qui rend responsable les archevêques de ça, avec des experts en France, et donc tout archevêque ou même tout évêque pourra s'adresser à ce comité de suivi pour transmettre un peu les différents signalements qu'il peut avoir, les éléments qu'il peut avoir. On prend un peu c'est difficile pour nous. Si je dis un mot de travers à la radio avec vous, je peux être mis au tribunal, parce qu'il y a des présomptions d'innocence, c'est compliqué pour nous.
Oui, ce fameux conseil de suivi qui s'appelle Vos Estis Lux Mundi. On va quand même préciser aussi un point, c'est que, alors il y a des enquêtes bien sûr pénales hein, quand il y a des signalements, mais il y a aussi des enquêtes canoniques. Ça va de pair avec une enquête judiciaire?
Oui, ça va de pair, et c'est vrai que l'enquête canonique doit respecter le travail de l'enquête pénale. Alors on est pris entre deux feux, vous rappelez, pour l'affaire Prénat à Lyon. Les fidèles chrétiens nous reprochaient de ne pas avoir lancé d'enquête canonique encore. Et l'enquête canonique, elle permet, par exemple, de renvoyer le prêtre de l'état clérical ou de lui interdire de célébrer la messe ou d'autres choses comme ça. Mais cette enquête canonique, elle ne doit pas interférer avec l'enquête pénale. Et c'est ça la difficulté. Donc voilà, on est sur une ligne de crête, vous voyez, pour mener les deux en parallèle. Rien ne doit interférer sur l'enquête pénale et sur le secret de l'enquête pénale. Le secret de l'instruction, et nous, en même temps, nos fidèles, ils comprennent pas qu'on n'interdise pas tout de suite un certain nombre de choses. Alors, évidemment, on peut prendre des mesures, ce qu'on appelle des mesures administratives, qui sont pas judiciaires, de prudence, hein, quand on retire un prêtre de sa paroisse ou un évêque de son diocèse, ça, on peut le faire, mais on peut difficilement aller plus loin dans l'enquête canonique si la procédure pénale n'est pas terminée.
Alors, vous ne laissez aucun sujet de côté, y compris l'euthanasie. On se doute bien que vous êtes contre, mais par contre, vous avez pris position pour qu'il y ait un développement des soins palliatifs?
Alors, parce que ça nous semble la vraie solution, et que tous les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais quand on discute avec les médecins spécialistes des soins palliatifs, ils nous disent, effectivement, on a dans nos services à l'hôpital des soins palliatifs, des malades qui viennent et qui nous disent, c'est trop dur, je veux mourir. Et quand on les prend vraiment en charge en soins palliatifs, ce sont des soins d'accompagnement, en fait, on leur permet de vivre leur dernière semaine de vie d'une manière apaisée avec leur famille. Et ils nous disent, les médecins, les soignants, les infirmières, que ces demandes de mort disparaissent. Donc la vraie solution, ce sont les soins palliatifs. Et je dois dire qu'on a beaucoup de chance dans les Hautes-Alpes parce qu'on a un service de soins palliatifs. J'ai été visiter un prêtre qui était dans ce service-là. On a un service qui est remarquable et qui fait même des soins palliatifs à domicile, dans les structures un peu plus petites que le FICAS à Gap. Mais c'est pas le cas dans tous les départements. Et donc, au lieu de faire une loi qui va ouvrir une boîte de Pandore sur la mort, eh bien, accompagnons cette mort d'une manière positive, et on sait faire, et l'hôpital sait faire. Voyez. Et donc, il faut absolument, au lieu de mettre de l'argent dans une euthanasie, dans un suicide assisté, c'est aussi quelque chose qui m'horrifie, ça. on lutte contre le suicide des jeunes. On dit qu'après la pandémie, il y a beaucoup de suicides. Et là, on va assister le suicide au lieu d'aider la personne. Donc oui, oui, aux soins palliatifs, c'est la vraie solution, non à l'euthanasie.
J'aimerais vous poser la question du alpin.com en référence à l'appel des prêtres irlandais. Il n'y en a plus assez aujourd'hui. Sur plus de 2100 curés, il en reste seulement 50, âgés de moins de 40 ans. Et selon les projections, il n'y en aura plus en exercice d'ici à 20 ans. Du coup, les membres du clergé irlandais ont pressé le Vatican pour moderniser l'Église et notamment autoriser les femmes à pouvoir elles aussi devenir curées. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, j'en pense que la difficulté du nombre de prêtres, elle se trouve partout, même si dans les Hautes-Alpes, on a la chance d'avoir encore beaucoup de prêtres, une pyramide des âges relativement jeune. Mais après, il y a ce qui est possible de faire dans la tradition de l'Église et dans ce que l'Église a compris de ce que le Seigneur Jésus voulait. Parce que nous ne sommes pas notre Église à nous, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et donc, on obéit à ce que nous dit le Seigneur Jésus, est-ce que l'on comprend de ce qu'il nous dit dans la Bible et dans la tradition de l'Église. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce qui sera peut-être possible un jour, ce sera d'ordonner ce qu'on appelle des viri probati, des hommes d'âge mûr. Le pape a jugé pour l'instant que ce n'était pas le moment et qu'il fallait mieux ordonner des jeunes célibataires et par rapport au sujet précédent, eh bien de mieux les former. Là, on travaille là-dessus. Ouais.
Et le 26 novembre prochain, dernière question, vous allez réunir vos fidèles à Notre-Dame-du-Lot pour promulguer la vision pastorale. En quelques mots, quelle vision pastorale ?
Alors, c'est justement l'objectif de voir qu'est-ce que l'on veut pour le diocèse de 2022 à 2030. Et une vision pastorale, c'est une phrase, une belle phrase, qui nous donne un peu cet objectif. Et elle va se décliner en 6 orientations missionnaires. Donc, quel est l'objectif de tous les chrétiens d'ici 2030? C'est ça que je vais promulguer le 26 novembre. Donc, j'invite tous les auditeurs à monter au lot ce jour-là. Il y aura également une lettre pastorale, alors qui est un peu longue, parce qu'elle détaille le travail que nous avons mené depuis 2019. Mais il y aura une synthèse en 4 pages qui sera accessible à tous. Donc, bienvenue au lot le 26 novembre. Et merci de m'avoir posé la question.
Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin, Monseigneur Xavier Mal, évêque du diocèse de Gap-en-Brun. Merci.
Merci, au revoir.